Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 17 mars 2020, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia. Pour commencer les titres, la pandémie de coronavirus, le total mondial des décès a dépassé les 7000 et 145 pays ont été touchés. Guinée, report inédit de la mission de chef d'État de la CEDEAO qui était attendue cette semaine dans ce pays. Au Togo, le Parlement lève l'immunité de l'opposant et candidat malheureux à la présidence Agbeyome Kodjo, accusé d'atteinte à la sécurité de l'État. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le nouveau coronavirus a fait plus de 7000 morts dans le monde depuis son apparition en décembre et 145 pays ont été touchés, portant le bilan des contaminations à plus de 175 530 cas. Claire Morin-Gibourg fait le point sur la pandémie et ses conséquences dans le monde.
Pour l'Organisation mondiale de la santé, le nouveau coronavirus est désormais une crise sanitaire mondiale majeure de notre époque et l'organisation appelle à effectuer un test pour chaque cas suspect. Il y a désormais plus de cas et de décès dans le reste du monde qu'en Chine, a confirmé l'OMS. Les pays les plus touchés sont l'Italie, l'Iran, l'Espagne et la France, derrière la Chine qui reste en première position. L'OMS a précisé que les personnes infectées peuvent continuer à être contagieuses après avoir cessé de se sentir malades. Les mesures d'isolation doivent donc être maintenues au moins 2 semaines après la disparition des symptômes. Aux États-Unis, le premier essai clinique d'un vaccin contre le nouveau coronavirus a débuté à Seattle. Désormais épicentre de la pandémie, l'Europe continue de renforcer les mesures de confinement et de fermeture des frontières. L'aviation britannique a cloué au sol l'essentiel de sa flotte et la Lufthansa va supprimer jusqu'à 90% de ses capacités de vol long courrier. La Turquie a suspendu les prières collectives dans ses mosquées, l'Iran fermé 4 lieux saints et l'Inde tous ses musées et monuments, dont le fameux palais du Taj Mahal.
Le nombre de cas confirmés ici aux États-Unis dépasse désormais les 4200, dont 74 décès. Et le président Donald Trump a recommandé hier de limiter les rassemblements à 10 personnes contre 50 dimanche encore, de fermer les écoles, déjà à l'arrêt dans des métropoles comme New York, Washington, Chicago ou Los Angeles, de ne plus sortir dans les bars et restaurants et d'éviter les voyages non essentiels sur fond de nouveaux plongeons de Wall Street qui craint la récession. Et en Afrique, de nouveaux cas et des restrictions à signaler. Jean-Roger Bion.
Le Burkina Faso a enregistré 5 nouveaux cas de coronavirus, portant le nombre total de cas à 20, alors que 59 passagers d'un avion en provenance de Chine ont été mis en confinement après la détection à bord de cas suspects, a annoncé lundi soir la ministre de la Santé, professeure Claudine Lougué. La Tanzanie et la Somalie ont enregistré lundi leur premier cas de coronavirus, tandis que leurs voisins d'Afrique de l'Est prenaient de nouvelles mesures de fermeture des frontières ou des écoles face à la progression du nombre de cas dans la région. De son côté, le Rwanda a annoncé 2 cas supplémentaires, passant son total à 7. Il a ordonné la fermeture des écoles et des églises pour 2 semaines et a interdit les concerts et les rassemblements de masse. La compagnie aérienne nationale rwandaise a annulé ses vols à destination de l'Inde, d'Israël et de la Chine. L'Éthiopie a aussi suspendu les grands rassemblements comme les compétitions sportives. Ce pays compte officiellement 5 cas. Il y a à ce jour 17 cas confirmés de coronavirus dans 6 pays d'Afrique de l'Est. Le Sénégal a annoncé lundi suspendre ses liaisons aériennes avec la France, l'Italie et 5 autres pays d'Europe et d'Afrique du Nord à partir de mercredi à minuit pour 30 jours. Le Sénégal a annoncé lundi un 27e cas de personnes contaminées, un Français de 67 ans arrivé de France en avion le 7 mars. Le Tchad, où aucun cas de nouveau coronavirus n'a été signalé jusque-là, a annoncé lundi qu'il allait fermer ses aéroports à toutes les compagnies aériennes à compter de jeudi minuit pour 2 semaines. La Tunisie, qui avait déjà fermé ses frontières maritimes, a annoncé lundi soir la fermeture des frontières aériennes et terrestres. 24 cas y ont été confirmés. Toutes les manifestations et compétitions sportives sont annulées, tout comme les prières collectives, alors que les écoles ne rouvriront pas avant le 28 mars.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Report signé de la mission de chef d'État ouest-africain attendue cette semaine en Guinée, quelques jours avant la tenue d'un référendum contesté sur une nouvelle constitution. C'est ce qu'a annoncé lundi le ministère guinéen des Affaires étrangères. Le point avec Nanit Talani.
La mission était mandatée par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest selon des responsables guinéens. Conakry avait donné son accord et le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassibrou, est arrivé lundi dans la capitale guinéenne, a indiqué dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères. Le ministère nigérien des Affaires étrangères a cependant notifié à son homologue guinéen, au nom de la présidence en exercice de la CEDEAO, que cette mission des chefs d'État a été reportée sine die selon le communiqué. Les présidents ivoiriens Alassane Ouattara et nigérian Muhammadu Buhari devaient faire partie de la mission selon le directeur du protocole d'État guinéen, Senkoun Kaba. Une autre source proche du ministère des Affaires étrangères avait fait état d'une délégation de 3 ou 4 chefs d'État sans plus de précision.
L'Assemblée nationale togolaise a levé hier l'immunité parlementaire de l'opposant Agbeyome Kodjo, arrivé deuxième à la présidentielle du 22 février, sur demande du procureur de la République qui souhaite le poursuivre pour atteinte à la sécurité de l'État. Bagassi Koura.
80 députés ont voté pour la levée de l'immunité de l'opposant par scrutin secret. 2 députés ont voté contre et 8 se sont abstenus. M. Kodjo n'était pas présent dans l'hémicycle. Sur la base de la résolution présentée, l'immunité parlementaire du député Abeyome Kodjo est levée, a déclaré Mme Yawa Djigbodi Sega, président de l'Assemblée nationale. Au cours de la même séance, le Parlement a autorisé le procureur général à entamer des poursuites pénales contre M. Kodjo. En qualité d'ancien président de l'Assemblée nationale, l'opposant ne pouvait être poursuivi au pénal sans l'aval des députés. Dans un courrier adressé le 10 mars à la présidente de l'Assemblée nationale, le procureur a accusé l'opposant de s'être autoproclamé président de la République. Le candidat du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement s'est également présenté comme prétendu chef de l'État et chef suprême des armées, appelant la nation et les forces armées togolaises à se mobiliser contre le pouvoir. M. Kodjo a obtenu 19,46% des suffrages exprimés contre 70,78% pour le président sortant Faure Gnassingbé. Seront les résultats définitifs de la Cour constitutionnelle.
La République démocratique du Congo a expulsé hier plus de 1400 Burundais accusés de séjour illégal dans la région de Goma, dans l'est du pays. Selon le gouverneur de la province du Nord Kivu, Karli Nzanzu Kasivita, ces Burundais se disent réfugiés, mais n'ont jamais acquis le statut de réfugiés. Les services de sécurité congolais ont identifié parmi ces immigrés des personnalités impliquées dans un coup d'État manqué au Burundi. Burundi a avancé la présidence de la République sans autre précision. Ces immigrés agissent sous le label de la secte mystico-religieuse Ezebia, dissidente de l'Église catholique burundaise, selon le communiqué de la présidence. Le département d'État américain a annoncé hier que le secrétaire d'État Mike Pompeo a prévenu dimanche le premier ministre irakien Adel Abdel Mahdi que les États-Unis riposteront, si nécessaire, en cas de nouvelle attaque contre des Américains après une série de tirs de roquettes meurtriers contre une base militaire en Irak. 2 soldats américains et 1 britannique ont été tués mercredi et samedi. 3 autres militaires américains et 2 irakiens ont été blessés dans de telles attaques. D'une ampleur rare, ces attaques ont relancé les craintes d'une escalade en Irak et avec l'Iran voisin, régulièrement jugé responsable par Washington d'être derrière ces tirs. En Israël, comme prévu, le président israélien Rivlin a chargé lundi le dirigeant centriste Benny Gantz, rival du premier ministre sortant Benjamin Netanyahu, de former un nouveau gouvernement avec l'objectif de sortir le pays d'une longue crise politique et de faire face au nouveau coronavirus. La Minute Éco, Nanit Talani.
Le Sénégal suspendra à partir de mercredi, et ce pour une durée de 30 jours, ses liaisons aériennes avec la France, l'Italie et 5 autres pays d'Europe et d'Afrique du Nord pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus. Pour la même raison, l'Algérie suspendra aussi à partir de jeudi toutes ses liaisons avec l'ensemble des pays européens, le Moyen-Orient et plusieurs capitales d'Afrique, dont Abidjan, Bamako, Dakar, Niamey, Nouakchott et Ouagadougou. Les aéroports de Mauritanie seront aussi fermés à partir de ce mardi aux vols en provenance et à destination de l'étranger. La Banque centrale du Nigeria a dévoilé un fonds de 135 millions de dollars pour soutenir les entreprises, surtout les hôteliers, les services aériens et les commerçants touchés par la crise du coronavirus. Le pays tente ainsi d'amortir le coût économique de la pandémie. Le Nigeria fournira aussi un soutien au crédit au profit du secteur de la santé afin de répondre à l'augmentation potentielle de la demande de services et de produits de santé. Pour terminer, le vice-président du Conseil soudanais de souveraineté, Mohamed Hamdan Dagalo, a déclaré que le Soudan est prêt à arbitrer le conflit entre l'Égypte et l'Éthiopie concernant le grand barrage éthiopien de la Renaissance sur le Nil et à parvenir à un accord. Ce projet, estimé à 4,6 milliards de dollars et déjà achevé à 71%, devrait fournir de l'électricité à 100 millions de personnes en Éthiopie. L'Égypte craint que le remplissage rapide du réservoir du barrage n'entraîne une diminution drastique de sa part des eaux du Nil dont dépend sa population.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
L'Algérie a suspendu toutes ses compétitions sportives.
Oui, c'est à cause de la pandémie du coronavirus. Les autorités algériennes avaient d'abord annoncé que les matchs allaient se jouer à huis clos avant de revenir sur leur décision. Le communiqué de presse a aussi annoncé la fermeture de toutes les infrastructures sportives de jeunesse et de loisirs jusqu'au 5 avril. Seuls les athlètes qualifiés aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 et ceux engagés dans les tournois qualificatifs pourront s'y entraîner. Cette suspension touche également les activités et sorties en plein air, de même que l'organisation des assemblées générales des structures d'animation sportive.
La FIFA veut utiliser le pouvoir du foot pour la prévention coronavirus.
Les acteurs du ballon rond doivent utiliser le pouvoir du football pour diffuser des messages de prévention contre la pandémie de coronavirus, a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino, promettant des initiatives de sensibilisation avec l'Organisation mondiale de la santé. Infantino estime par ailleurs que le football sera crucial pour aider la société à remonter la pente après la pandémie. Cette lettre intervient alors que la plupart des championnats majeurs du football ont choisi de suspendre leurs activités face à la propagation du coronavirus. Ce mardi, une réunion de crise de l'UEFA doit se pencher sur un éventuel report de l'Euro 2020 prévu du 12 juin au 12 juillet, dont l'organisation est très menacée par la pandémie. Plusieurs grands noms du football comme le quintuple ballon d'or Cristiano Ronaldo ont pris la parole ces derniers jours pour exhorter les supporters à respecter les consignes des autorités sanitaires.
NBA, Donovan Mitchell en a voulu à Rudy Gobert.
Oui, le meneur de Utah Jazz a testé positif au nouveau coronavirus juste après son coéquipier Rudy Gobert a reconnu avoir eu besoin de temps pour se calmer avant de finir par entendre le Français qui a présenté ses excuses pour sa négligence. Jeudi, en officialisant lui-même avoir contracté le Covid-19, Donovan Mitchell avait, sans nommer Gobert, appeler les gens à continuer à se renseigner et se rendre compte qu'ils doivent se comporter de manière responsable, à la fois pour leur propre santé et pour le bien-être de leur entourage. Il y a une semaine, 48 heures avant l'annonce de son test positif, Gobert a fait une blague à la fin d'une conférence de presse. Après avoir répondu à une question sur l'épidémie, il s'était levé et avait touché de ses mains les micros et enregistreurs posés sur la table avant de quitter la salle. Il a ensuite présenté ses excuses, admettant avoir manqué de discernement. Donovan Mitchell s'est également voulu rassurant sur son état de santé Je n'ai aucun symptôme, je pourrais marcher dans la rue. Et si ce n'était pas de notoriété publique que je suis malade, vous ne le sauriez pas, a-t-il déclaré.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'Union africaine s'active à déployer une force militaire de 3000 hommes au Sahel pour lutter contre le terrorisme. Décision annoncée lors de son dernier sommet. Un comité tripartite UA-CDAO-G5 Sahel, chargé de définir les modalités de ce déploiement, a été mis en place ce lundi à Niamey, au Niger. Les détails avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
C'est à ce comité que revient la tâche de définir les contours, les moyens et le mécanisme du déploiement rapide de cette force, la situation se dégradant chaque jour un peu plus sur le terrain. Ismaël Chargui, commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine.
Les pays africains sont conscients de l'immensité du défi qui se pose à cette région et surtout le danger de le voir se glisser vers les pays côtiers. Et donc le danger qu'il y ait une rencontre entre les terroristes ici et les gens de Boko Haram. Nous savons que déjà qu'il y a une certaine coopération. Donc c'est vous dire que l'exercice était utile, était attendu et il soulève d'énormes espoirs pour une meilleure prise en charge des impératifs de cette lutte contre le terrorisme.
Comme facteur essentiel de la réussite des actions de cette future force de l'Union africaine au Sahel, la rencontre de Niamey a relevé la résolution de la crise libyenne. Ismaël Siargui.
Nous avons réitéré l'impératif de la résolution de la crise libyenne qui a jusqu'à maintenant aggravé et rendu encore plus complexe la situation dans le Sahel. Donc je ne peux que réitérer ici nos demandes expresses que les résultats de la réunion de Berlin, en particulier pour un cessez-le-feu effectif et immédiat, pour le respect de l'embargo des Nations Unies sur les armes et enfin pour l'arrêt de toutes les interférences extérieures en plus de cette réponse sécuritaire et militaire. Nous aurons à promouvoir aussi une stratégie de stabilisation du Sahel qui pourra donc incorporer toutes ces questions de gouvernance politique, économique et de développement.
Les membres du comité se sont donné rendez-vous bientôt pour travailler au déploiement rapide de cette autre force qui viendra en renfort à celle déjà présente pour lutter contre les différents groupes terroristes qui écument la région du Sahel. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM 24h sur 24.
En Guinée, le président Alpha Condé vient d'appeler à des élections législatives et à un référendum constitutionnel le 22 mars. Ce double scrutin est boycotté par l'opposition qui accuse M. Condé de vouloir s'accrocher au pouvoir en briguant un troisième mandat lors de l'élection présidentielle prévue au mois d'octobre. Une possibilité que celui-ci n'écarte toujours pas dans une interview avec notre correspondante Patricia.
Alpha Condé a été le premier président guinéen démocratiquement élu. C'était en 2010, après un demi-siècle de régimes dictatoriaux et militaires qui ont suivi l'indépendance en 1958. 10 ans plus tard, le chef de l'État défend son bilan, critiqué par ses opposants.
Quand j'ai vu le gouffre où on était, jusqu'à mon arrivée, mais en même temps j'avais confiance en la Guinée parce que nous avons d'immenses ressources. Malheureusement, il y a eu le Ebola pendant 2 ans et demi. Donc malgré cela, nous avons eu une progression économique. Quand vous voyez l'ensemble, on a plus de 6%. Mais les problèmes macroéconomiques ne changent pas l'assiette de la ménagère. C'est pourquoi nous avons décidé de consacrer 15% des ressources minières aux sous-préfectures. Mais on ne peut pas me demander en 8 ans de transformer ce qui n'a pas été fait en 50 ans.
Pour ce double scrutin, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a recommandé le retrait de près de 2,5 millions d'électeurs enregistrés sans pièces justificatives, soit environ un tiers des fichiers électoraux. C'est la même constatation qui a été faite par l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF.
L'OIF n'était pas venu pour faire l'audit, il était venu pour nous accompagner. L'OIF a créé le doute sur les fichiers, donc c'est normal que quand il y a un doute, que j'accepte que la CEDEAO envoie des experts. Je ne peux pas accepter qu'il y ait le moindre doute sur le fichier guinéen. Moi, je ne comprends rien avec la CEDEAO, ni avec l'Union africaine. Et je trouve ça phénoménal, ce n'est pas une ingérence parce que je suis panafricain. Mais moi, je suis élu par le peuple de Guinée. J'ai des comptes à rendre au peuple de Guinée.
Si le oui au référendum pour l'adoption d'une nouvelle constitution l'emportait, cela ouvrirait la voie à Alpha Condé pour briguer un troisième mandat lors de la présidentielle d'octobre, une possibilité qu'il n'écarte pas.
Pour le moment, j'ai fait un programme que je suis en train d'appliquer. Pour le moment, je vais doter le pays d'une condition moderne. Lorsque le moment des élections présidentielles arrivera, les partis sont libres de planter les candidats qu'ils veulent. Il y a combien de chefs d'État africains qui ont 3 ou 4 mandats et qui sont des chouchous. C'est cette géométrie, variable. Quand on a des intérêts, on soutient. Quand quelqu'un est nationaliste et qu'il ne laisse pas crier, on le critique. Est-ce que la démocratie, c'est l'alternance obligatoirement? On a vu dans beaucoup de pays ce que l'alternance a donné. Ici, l'opposition, c'est les anciens gestionnaires, c'est les anciens premiers ministres qui ont géré le pays. Et on sait dans quelle situation ils ont mis le pays. J'ai été posé en 42 ans. J'ai été condamné à mort. J'ai fait la prison. Moi, je n'ai de leçon des démocrates à leçon de personne. Et c'est plus démocratique qu'un référendum.
Sauf nouveau report, le double scrutin se tiendra ce dimanche. Patricia Huon, de retour de Conakry pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Alors que l'Europe est touchée de plein fouet par le coronavirus et que de nombreux pays ont fermé écoles et lieux publics, au Maroc, des dizaines de jeunes gens se rassemblent toujours près de l'entrée de Tanger Med, le plus grand terminal de fret maritime de la Méditerranée, dans l'espoir de traverser la Méditerranée en passagers clandestins. Claire Morin-Gibourg.
Comme ce jeune Marocain, Abdoulaoued, ils sont des dizaines à errer aux abords du gigantesque port de Tanger Med. La crise du nouveau coronavirus et le bouclage des frontières n'a rien changé à leur plan. Abdoulaoued témoigne.
Après la fermeture des frontières, c'est devenu un peu plus compliqué de trouver des solutions. Nous avons encore faim. Dès que vous arrivez au port, ils vous jettent dehors. La situation est très compliquée. Nous n'avons pas peur. Notre seule crainte ne peut venir que de Dieu. En venant à ce port, nous savions qu'il fallait être patient et nous avons peur de personne.
Situé à moins de 20 km à vol d'oiseau, l'Espagne est l'un des pays européens les plus touchés par la pandémie du Covid-19. Le pays s'est calfeutré en déclarant une quarantaine quasi totale et l'état d'alerte pour 15 jours. De son côté, le Maroc ne compte que 28 cas déclarés et un seul décès. Le royaume chérifien a suspendu la semaine dernière ses liaisons aériennes avec 29 pays et stoppé le trafic maritime des passagers. Mais le transit des camions et des conteneurs continue normalement. Pour Abdelaoued et ses compagnons candidats à l'exil, cette pandémie ne les freine en aucune façon.
Nous voulons aller en Europe pour trouver autre chose et construire notre avenir. En ce qui concerne la pandémie, si c'est notre destin de tomber malade, nous tomberons malades. Nous sommes déjà malades dans ce pays sans le coronavirus.
La situation précaire de ces migrants tranche avec le dynamisme économique et la prospérité de la région de Tanger, en plein boom grâce à son parc industriel et son immense port de marchandises. En l'absence de données officielles, difficile de savoir combien ces candidats marocains à l'exil tentent cette aventure périlleuse. Selon les autorités espagnoles, ce sont près de 32 500 migrants originaires de plusieurs pays africains, dont le Maroc, qui sont entrés clandestinement en Espagne en 2019, que ce soit par voie terrestre ou par voie maritime. Un chiffre en baisse de 50% par rapport à 2018.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24h sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Le film Mama Lova, réalisé par Jeff Taver, est un court-métrage français parlant de mères isolées mais non démissionnaires dans l'éducation de leurs enfants. Le film a reçu un très bon accueil du public lors du dernier Pan-African Film Festival de Los Angeles. Il est également présenté dans le milieu associatif et scolaire en France. Le coproducteur Patrice Comartin et le réalisateur Jeff Taver nous parle de leur film au micro d'Ekia Badou.
Tu sais quoi, Cote ?
Je m'appelle Jeff Taver, j'ai grandi à Sarcelles, je suis originaire de la Guadeloupe et aujourd'hui je suis réalisateur. Il s'avère que j'ai une amie qui s'appelle Marianne Akaba qui m'a inspiré un peu d'idées. Et puis je l'ai développé parce que bon, moi je suis quand même j'ai quand même grandi seul avec ma mère et j'ai toujours trouvé qu'il y avait une différence de casquette entre un père qui élève seul ses enfants et une mère qui élève seule ses enfants. J'avais envie de leur rendre hommage aussi et le courage qu'elles avaient, un courage qui dépassait leur force physique en fait.
Alors comme ça tu comptes en prendre à mon fils ?
Je me présente, je m'appelle Comartin Patrice. Donc on est dans le cinéma depuis un petit peu, je dirais, une dizaine d'années. Le cinéma, c'est un peu notre passion. Avec Jeff, on s'est connus en étant jeunes. Tout simplement, on vient des quartiers un petit peu difficiles où on a été élevés par des mères qui étaient seules. De ce fait, nous, on a voulu raconter un petit peu le parcours de ces femmes qui sont vaillantes. Celle qui nous apprend tout, celle qui nous montre les valeurs et les principes qu'elle veut nous véhiculer, comment s'en sortir dans la vie et comment ne pas abandonner, elle nous véhicule tout ça. Donc on a voulu mettre ça en image, montrer leur combat de tous les jours, de remplacer le père qui n'est pas là.
Vous croyez qu'on sait pas ce que vous faites à longueur de journée ici ?
Par-dessus tout ça, c'était aussi de survoler les petits problèmes de société qu'on a. Survoler plusieurs thématiques, que ce soit les jeunes qui traînent dans les quartiers, qui vendent de la drogue. C'est pas normal qu'il y ait ce fléau dans les quartiers, que ce soit les mamans qui sont obligées de le faire aussi. Donc il y a plusieurs thématiques qui sont surlignées à travers le regard d'une mère. Mata Gabin, elle est vraiment entrée dans le personnage. Voilà ce petit côté où cette femme qui... Le jeune Daniel... C'est un petit Instagrammeur que j'avais découvert sur Instagram. Voilà, ce qui m'a plu chez lui, c'est dans ses yeux, j'ai l'impression de voir ce petit côté gentil. Comme je dis, on ne devient pas méchant, on ne met pas méchant, on le devient. Voilà, il est peut-être devenu comme ça parce qu'il doit avoir des problèmes chez lui.
Alors, vous avez l'occasion d'aller dans plusieurs lieux pour présenter ce projet. Quels sont les retours que vous avez pu recevoir qui vous ont... marqué.
Pour moi, c'était déjà une victoire de faire paraître une femme noire comme une femme normale ou comme une femme tout court.
Oui, vraiment de très bons retours parce que ces deux aspects, l'aspect du jeune se voit aussi près de ces différents jeunes. L'aspect de la maman, quand il la regarde, il dit « ouais, finalement, je fais souffrir ma mère, c'est pas bien ». Donc par rapport à ça, on a des échanges dans ce sens où il se rend compte le mal qu'il fait à sa mère et aussi... que ce qu'il fait, effectivement, a des conséquences qui peuvent arriver jusqu'à la mort.
Le réalisateur Jeff Taver et le co-réalisateur Patrice Comartin joint à Paris.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Michel Joseph pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.